Alors, on va faire une sicha du Rabbi aujourd'hui sur. Donc, le résumé sera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Hein, parce qu'avec les. Tout ce que je vais m'occuper, j'ai pas eu le temps de conclure le résumé. Par contre, je me suis dit, pour joindre l'utile à l'agréable, tant qu'à faire, on va utiliser une sicha du Rabbi qui va nous permettre de mieux comprendre les premiers chapitres de Igaret HaTshuva. Et ça nous aidera à mieux comprendre le résumé la semaine prochaine. D'accord? Donc, on va lire ensemble dans les mots. Beinyani HaTshuva, Shal Adam Lasat. Donc c'est une sicha du Rabbi sur le premier chapitre de Igaret HaTshuva, qu'on résumera la semaine prochaine. À propos de la teshuva que l'homme doit faire, Otam Masbir Rabbeinu Azakan Bishlosha Prakim Arishonim chez Igaret HaTshuva. Dans les trois premiers chapitres du Igaret HaTshuva, l'Admo Azaken explique le déroulement, le process de la teshuva. Donc Bahem ou Masbir Inyani HaTshuva Alakha Lemaaseh Beikar Alpinigle. Si vous vous rappelez, dans les trois premiers chapitres du Igaret HaTshuva, l'Admour Hazaken nous a expliqué le process de la Teshuva tel qu'il est perçu par la Halakha. Et c'est seulement après qu'à partir du chapitre numéro 4, qu'on a commencé à rentrer dans les détails, comment la Chassidoute nous expliquait comment on pouvait arriver à faire Teshuva. Mais dans les trois premiers chapitres de Igaret HaTshuva, on a expliqué principalement le process de la Teshuva. Alors, ce qu'on se rappelle, et c'est ça que je vais m'arrêter aujourd'hui, Umone Shlosha Inanim. On remarque que dans les trois premiers chapitres du Igaret HaTshuva, l'Admour Hazaken décompte dans le process de la Teshuva trois choses. Trois choses. Vous suivez dans les mots? Adavar Harishon. Non, on suit dans les mots. Je vais aller un peu vite parce que c'est expliqué longuement. Adavar Harishon, la première étape dans le process de la Teshuva, ou Azivat Achet. C'est le fait qu'une personne doit abandonner la faute. Vous vous rappelez? Ce qu'on avait expliqué, c'est quoi la première chose de la Teshuva? C'est que la personne doit décider. Ça y est, non mort, je recommencerai plus. Se séparer du mal. Amehave mitzvah tachouva. Et que ça, l'Admor Hazaken avait expliqué longuement, c'est ça la mitzvah de la teshuva. C'est cette seconde, cette microseconde dans laquelle je décide, ça y est, je recommencerai plus. Ou kfish et mouzbar, comme c'est expliqué, shemiyat shogomer belibo, dès que la personne décide, leval yashuv od lekisla, qui ne reviendra plus, lekisla, ça veut dire à son passé négatif, ou naase tzadik gamour, à ce moment-là, il devient tout de suite un tzadik parfait. Ça, c'est la première étape du process de la teshuva. Beinyanze, matril rabbeinu azaken biur inena teshuva shel adam la'asot. Et donc, selon l'Admor Hazaken, c'est par ça que la teshuva commence. Ça veut dire qu'une personne qui commence à faire un tikkun, etc., et de la tzedaka, etc., alors qu'il n'a pas fait le béaba de la teshuva, c'est quoi le béaba de la teshuva? Une décision interne, intérieure, d'accord, intériorisée, je décide de ne plus recommencer, il perd son temps. Il est en train de faire le bonus alors qu'il n'a pas fait l'essentiel. Ça, c'est ce que l'Admor Hazaken a expliqué. Bon, je saute la parenthèse. L'Acharezé, après ça, Beoto Perek, dans ce même chapitre, toujours dans le premier chapitre, ou Gam Mevi Shetrichim Liot Vidouy ou Bakashat Mechila. Dans le même chapitre, il dit qu'après la Teshuva, va venir le Vidouy et Bakashat Mechila, ça veut dire quoi? Ça veut dire la confession. Donc ça veut dire que la première étape, c'est quoi? C'est une décision intérieure de ne plus recommencer. Deuxième étape, c'est quoi? Confession. C'est quoi la confession? Comment confession? C'est quoi la confession en français? Allez, messieurs. C'est quoi la confession?
C'est reconnaître nos fautes.
Quelqu'un a besoin d'un café?
Oui, c'est ça.
Hein?
Avouer ou reconnaître.
Reconnaître, c'est-à-dire les dire verbalement. D'accord? Ça veut dire commencer à détailler sa avérote. D'accord. Donc, anogrim, lishlemu tachuva. Mais ça, l'Admor Hazaken a dit que ça, ça sert uniquement à parfaire la teshuva. Parfaire. Pour la rendre plus parfaite. Ok, la chan rabbeinu azaken le kaman reshperekbet, comme l'Admor Hazaken a dit plus loin, dans le chapitre 2, que she'asat tshuva shlema. Que ça, c'est la ça c'est pour parfaire la teshuva. Shalye dekar nif elet, akapara ou mechilat et avant, que grâce à ça, on peut lui amener le pardon. Donc on a déjà deux étapes dans le processus de la teshuva. C'est quoi la première étape? La première étape c'est quoi? C'est la décision. Décision, je décide, je ne recommence plus. C'est quoi la deuxième étape? Deuxième étape, c'est la confession. C'est ce qu'on fait à Kippour, par exemple. Vous savez qu'avant Kippour, normalement, on doit déjà avoir pris la décision de ne plus recommencer. Après, pendant Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Halchet. Qu'est-ce qu'on fait dans le Halchet? On va citer verbalement la avérote qu'on a fait. C'est pour mieux regretter la avérote qu'on a fait. Mais en vérité, la Teshuva, on l'a déjà faite. On l'a déjà faite quand on a décidé de ne plus recommencer. Très bien. Ken. Ou Mevi Beperek Rishon, Inya Nataniot Vasigoufi. De la même manière, dans le premier chapitre, toujours, Il amène les jeûnes vers Sigoufim et les souffrances, les ovaires à la critote et mutate bedi. Chez Gamem Nogib, Minan Akapara. Donc là, on avait compliqué un petit peu les choses. On avait dit qu'après, de la même manière que, après qu'on s'est accroché avec quelqu'un, on lui amène un bouquet de fleurs. De la même manière, on a expliqué qu'il y a le bouquet de fleurs. Qu'on amène à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'était les corbanotes qui ont été remplacés après par les jeunes, qui sont remplacés aujourd'hui par là. Par là. Là, c'est d'accord. On est d'accord? Plus non.
Oui.
Bon. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici trois étapes dans le process de la Teshuvah. Oui? Première étape, c'est quoi? Première étape, c'est décision de ne plus recommencer. Deuxième étape, c'est confession. Troisième étape, c'est
les fleurs.
Le bouquet de fleurs, c'est l'équivalent de la Tzedaka. D'accord. C'est l'équivalent du bouquet de fleurs. Ok. Alors maintenant, moi, je vous pose une question. C'est quoi la question qu'on se pose? La question qu'on se pose, c'est que s'il y a un ordre dans le process, est-ce que ça veut dire que le premier dans le process est le plus important? Et est-ce que ça veut dire que plus on avance, ça devient plus important? Ou plus on avance, ça devient moins important? C'est lequel qu'on met en premier, le plus important ou le moins important?
Donc, c'est important.
Lorsque vous avez un contrôle, vous répondez tout d'abord aux questions les plus faciles ou aux questions les plus difficiles?
Ça dépend de ton niveau. La personne intelligente, elle répond d'abord aux questions les plus difficiles, les plus faciles. La personne la moins intelligente, elle répond d'abord aux questions faciles.
Qu'est-ce que c'est?
C'est comme ça qu'on fait.
C'est comme ça qu'on fait.
Ah ouais. Les profs, ils te diront ça.
Ils te diront quoi?
Ceux qui ont un bon niveau, ils se tapent les questions difficiles en faisant la tête qui est fraîche. Et après, ils font le facile parce qu'ils sont sûrs de le faire. Celui déjà qui a des difficultés, il fait le facile au moins, il est sûr d'avoir la moyenne. Après, il fait le difficile.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
On fait le plus facile.
Vous faites un travail. Vous faites d'abord la tâche la plus difficile ou la tâche la plus facile?
On fait d'abord ce qu'on sait faire.
Si on refait une pièce, la préparation c'est la plus difficile.
Non, vous avez le choix entre deux choses.
Il n'y a pas le choix. Pour la préparation,
non, mais s'il y a le choix.
Plus facile, par exemple, tu rentres dans une pièce, t'as tout ce qui s'effondre. Tu dois le refaire.
Si vous avez le choix, vous faites quoi en premier?
C'est comme les bougies de Hanouka.
La peinture, tu dois faire même à un gosse pour faire la peinture.
C'est comme les bougies de Hanouka. Est-ce que tu commences par une bougie, deux bougies, trois bougies?
Oui.
Tu mets tout de suite les 8 bougies.
Donnez la forme.
Alors, il est à Beth Shammai.
Regardez bien ce qu'il va expliquer ici le rabbi. Le rabbi dit comme ça. Le rabbi, au début, il va donner la réponse à M. Sportiche. D'accord?
Je pense que oui.
Bon. Non, la question qu'on se pose, c'est la Admor HaZaken nous a expliqué l'ordre, le process.
Oui.
D'accord? Mais cet ordre veut dire quoi? Alors, écoutez bien ce que dit la Admor HaZaken.
Il avait dit tout à l'heure que ça démarrait par le fait de décider mentalement d'abandonner la faute.
D'accord.
Ça, c'est plus dur.
C'est clair.
Non, deux secondes. Mais pourquoi on donne cet ordre? Est-ce que ça veut dire que le premier est le plus important?
Bah oui, c'est la base.
Ah non? Deux secondes, on va voir. Ta'amot, on va dire ta réponse, on va la repousser. Ta'amot shel davar bepashtut. La réponse, la raison a priori pour laquelle l'Admor HaZaken a donné cet ordre dans le process, bepashtut, ça veut dire si on cherche le pshat et la raison simple, shel Rabbeinu HaZaken mone shloshah inyanim. Pourquoi l'Admor HaZaken le met dans cet ordre? D'abord, azivat achet. D'abord, décider de ne plus recommencer la faute. Après, vidouille ou bakashat mechila, donc la confession. Et après, ta'aniyot vesigufim, et après les jeunes. Pourquoi l'Admor HaZaken prend cet ordre-là? Mais Seder Zedavka, particulièrement dans cet ordre, ou Mipne chez Karou Seder Avoda. Puisque comme il dit monsieur Sportiche, on n'a pas le choix. C'est l'ordre. Tu peux pas mettre la peinture avant d'avoir apprêté le mur. Donc pourquoi l'Admor HaZaken les met dans cet ordre? Parce que tu peux pas amener le bouquet de fleurs avant d'avoir préparé. D'accord? C'est normal. Tu mets pas l'aluminium avant d'avoir rempli ton sandwich. Il y a un problème sinon.
David.
D'accord?
Je suis d'accord.
On est d'accord. Bon. Donc, Adavar Arishon, Mina Echer Shtia Tshuva Atma. Donc, a priori, pourquoi l'Admor HaZaken les a mis dans cet ordre? Puisque c'est l'ordre logique. Que la première chose obligatoire, c'est comment ça? La première chose obligatoire, c'est quoi? C'est Azivat Achet.
Se séparer.
D'accord? Ça veut dire quitter la faute.
Ta colonne est là-bas.
T'es passé à côté de ta colonne.
Ah, t'es passé à côté de ta colonne. Non, c'est de l'autre côté.
Là.
Non, là. Fais le tour, fais le tour. Fais le tour.
Moi j'ai une larme qui a coulé.
C'était un goral, un tirage au sort. Monsieur Sportiche, j'en ai tiré.
Bravo, Monsieur Sportiche, vous aurez 10% sur votre prochain temps.
on a dit on veut pas d'histoire, on a tiré au sort. Chacun il est tombé où
il devait. Il y avait un huissier pour contrôler.
Hein? Ah ouais.
Il y avait deux témoins.
Il y avait deux témoins, il y avait une femme de ménage si vous voulez.
Femme de ménage.
Ça te plaît?
Mazal tov, hein?
Ok, donc l'Admor HaZaken dit la chose suivante. Il dit que la raison pour laquelle on a donné cet ordre-là, l'ordre que tout d'abord, la première chose de la Torah. Ok. Donc on était en train de dire que l'Admor HaZaken, la raison pour laquelle l'Admor HaZaken a priori a pris cet ordre, c'est quoi l'ordre? Donc il a pris l'ordre, d'abord on abandonne la faute, après la confession, et après les jeûnes. Pourquoi il a pris l'Admor HaZaken dans cet ordre-là? A priori, la raison est très simple, on a dit parce que c'est l'ordre logique, comme a dit monsieur Sportich, il a dit avant de mettre la peinture, il faut d'abord apprêter le mur, le gratter, etc., mettre l'enduit, et après seulement tu mets la peinture. D'accord. Mais, on va passer tout au paragraphe suivant, Bram, cependant. Ça c'est la logique. La logique que tu dis, c'est normal. Que d'abord, la première chose, on doit d'abord prendre la décision de ne plus recommencer, après, on doit dire en détail ce qu'on a fait, et après, on doit amener le bouquet de fleurs, dans cet ordre. C'est un ordre qui est logique. Et a priori, c'est la raison pour laquelle Admor HaZaken a pris cet ordre-là. Écoutez bien ce qu'il dit le rabbi. Il brame cependant. La mito shel davar, en vérité, quand on voit la profondeur des choses. Je suis au paragraphe qui commence par brame. En bas. Brame cependant. La mito shel davar, en vérité. Trichim lomar, on doit dire. Sheu magdim aziva tachet. Levidouy ou bakashat mechilav et aniyot. Que si la première étape. Si Akadosh Baruch Hu a fait que la première étape de la teshuva. L'étape la plus importante de la teshuva. Et Azivat Achet, l'étape dans laquelle on décide d'arrêter de fauter, c'est pas pour rien. D'accord? Je saute la parenthèse. Mipne Shazivat Achet Kodemet Bemarala. Ça veut dire comme ça. Si on nous pose la question, si je vous pose la question parmi les trois étapes que je vous ai données, laquelle d'après vous paraît la plus importante? Celle qui dure une seconde dans laquelle je décide de ne plus fauter, celle qui dure un peu plus de temps dans laquelle j'étale mes fautes, ou celle dans laquelle je suis en train d'amener le bouquet de fleurs et ça on a expliqué dans les prakim, ça peut durer des années. Alors, instinctivement, on a envie de répondre, c'est la dernière. Parce que la dernière, elle va durer des années. D'accord? Eh bien, le rabbi va expliquer ici que si concrètement, Akadosh Baruch Hu a fait les choses en sorte que la première étape, c'est l'étape dans laquelle on abandonne la faute. Donc, si c'est la première, ça veut dire que c'est également la numéro 1. Et que le plus important dans la teshuvah, c'est le fait de décider de ne plus refauter. C'est ça le plus important de la teshuvah.
Non, mais c'est logique que ce soit la première.
Non. Ça veut dire que non seulement, ça doit être la première, mais c'est aussi l'étape la plus importante. Je vais expliquer ici. Vekayadua, comme c'est connu, chez Seder Akdima Veichur Batorah, que quand on a un ordre dans la Torah, on a un événement qui est raconté après un autre événement. D'accord? Donc il y a un ordre, avant, après. Ou Vemiuchad Betorah Shibirtav, particulièrement dans la Torah écrite, et on sait que Vatania aurait Torah Shibirtav chez la Chassidut, que le Tania, c'est la Torah écrite de la Chassidut, parce qu'il y a la Torah orale, la Torah écrite. La Torah écrite de la Chassidut, c'est le Tania. Ou mitzad akdima bemaala, ça veut dire que si on nous l'a mis en premier, ça veut dire que ça c'est le plus important. Ça c'est très important ce qu'il dit le rabbi ici. Ça veut dire que finalement, quand vous avez des juifs de Kippour, qui ont une décision le jour de Kippour de ne plus refauter, mais qu'après il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire qu'ils ont apprêté le mur, mais après il n'y a pas eu la peinture. D'accord? Il n'y a pas eu de suivi.
Le Kippour, je pense pas qu'il vient pour. Parce qu'il a décidé de ne pas refauter.
Qu'est-ce que c'est?
Parce que Kippour ça
peut-être,
pardonne.
Toi tu dis ça.
Le Kippour,
d'accord?
Ça pardonne.
Peut-être. En tout cas, quelqu'un qui a une kavana, un jour, un matin, il se réveille, d'accord? Il fait une amida avec une grande kavana. Comme ça, un beau matin, un mercredi matin, comme ça. Il se réveille, il fait une bonne amida. Il a une kavana, Baruch Hashem, j'ai envie, ça y est, aujourd'hui, ça va être bien. Il a eu Azivat Achet. C'est bon. Mais maintenant, le problème, c'est que le reste n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'après, dès qu'on arrive à l'heure des comptes, à l'heure de la confession, il n'était plus là. Ou bien, dès qu'on arrive à l'heure du bouquet, on dit bon, maintenant, vas-y, montre-nous que t'es sérieux. Il est plus là. Il est déjà parti. C'est-à-dire, c'est du pipeau dans ce cas-là ce qu'il a fait. Le rabbi dit non. Le rabbi dit que puisqu'on voit que la première étape de la teshuva, c'est le fait d'abandonner la faute, si c'est la première étape, c'est pas seulement parce qu'on n'a pas le choix et qu'on doit la mettre en première et qu'on doit bien apprêter le mur avant de le faire. Non. Si c'est la première étape, ça veut dire que c'est l'étape la plus importante. Sinon, il la répète en première.
Oui, d'accord.
D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'étape la plus importante, d'accord, et que les autres sont uniquement un bonus. Donc, c'est l'étape la plus importante. Et celui qui a fait que cette étape-là, il a déjà fait l'essentiel de la teshuvah.
Oui, mais je me dis qu'il recommence. On ne le voit plus pour le reste.
Non, je n'ai pas dit qu'il recommence. J'ai dit qu'il n'a pas fait la suite.
S'il n'a pas fait la suite, comment
il s'est dit? Il n'a pas fait la suite. C'est-à-dire qu'après, bon, il n'a pas fait la confession. D'accord?
Mais il a pu recommencer la faute.
Il a
pu recommencer la faute.
Peut-être qu'il a pu recommencer. Oui. Mais bon, il n'a pas continué. Tu as des gens, toute leur vie, font teshuvah.
La décision, alors, dès qu'il décide.
Oui, dès qu'il décide. Alors, donc il dit le rabbi, je suis à la dernière ligne de la colonne. Je vais un peu vite parce que moi, c'est expliqué longuement. En fait, ça, c'est pas les mots du rabbi, une sira du rabbi qui a été retranscrite par les élèves. Évidemment, ça a été revu par le rabbi. Velamrot, donc c'est pour ça que c'est expliqué longuement. ולמרות שווידוי בקשת מחילה פועל לכאורה עניין נעלה יותר מאשר עזיבת החטא. Dit, a priori, c'est pas si simple ce qu'on vient d'expliquer. C'est pas si simple qu'on dit que le fait de décider de ne plus refauter, c'est le plus important. C'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Parce que lorsqu'une personne fait teshuva, il décide de ne plus refauter, à ce moment-là, quel statut il a envers Akadosh Baruch Hu? Il a un statut, comme on a dit, que on lui parle plus de sa avérot. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive en haut, on fait comme si qu'on n'a jamais rien vu. On est d'accord? Mais il a quand même des défauts. Il a une tâche, mais on lui en parle pas. D'accord? Et on avait expliqué qu'à quoi sert le vidouille, à quoi sert le bouquet de fleurs, sert à enlever cette tâche. Donc finalement, la deuxième et la troisième étape sont très importantes, puisqu'on enlève une tâche, c'est pas rien. Explique le rabbi, il dit bien que les deuxième et troisième étapes sont très importantes, puisque c'est ça ce qui va faire que concrètement, on va enlever la tâche de la vera. Et donc c'est ça finalement ce qu'on recherche. Il dit quand même, il dit « Afalpiken », donc je saute deux paragraphes, « Afalpiken », le paragraphe commence « Afalpiken »,« Afalpiken » quand même. « Pifnimiyut et inyani » dans la profondeur des choses, « Inyanze anigram aliede azivat achet, shayede aziva mitralep adam miracha gamour, les tzadik gamour, inyanze naleyoter machar kapar vamrote vechavu. » En fait, ils disent pas comme ça qu'il faut analyser la chose. C'est vrai que, ça veut dire comme ça. On va prendre un exemple, on a ici un mur qui est sale. Imaginez-vous quelqu'un qui est venu, il a fait une balafre sur le mur. D'accord? Bon. Il vient te voir après, il dit, écoute, d'accord? La colonne, voilà, il a fait une colonne. Attends, j'ai mis du côté de la chou, du côté des... Comme ça, les gens... Bon. Donc, on a une personne qui a fait une bêtise, il a fait une balafre, il a tout cassé. Il vient par derrière, il dit, écoute, tu sais, je recommence plus. D'accord? D'accord. Mais il n'a pas réparé. Ensuite, par derrière, il vient, vidouille, bakachat mechila. Il va demander Mechila, c'est-à-dire là, maintenant il va demander Mechila, il va essayer de proposer de l'argent pour réparer. Et après, il va amener un bouquet de fleurs. Bon. Alors, on a expliqué que on est obligé de suivre cet ordre, on n'a pas le choix. D'accord. Mais on est tenté de dire que la première étape, quand il dit « je recommencerai plus », tant qu'on n'est pas passé à la phase 2, phase 3, ça vaut rien, c'est walou, c'est rien du tout. D'accord. J'ai compris, tu as raison que c'est important. C'est important, mais... Tu as raison que c'est important. Mais si je te pose la question, lequel est un niveau le plus fort? D'accord. Le 1 dit, bon, écoute, on dit, nous, on veut voir du chiffre. Pour l'instant, tu dis, je recommencerai plus. D'accord. Bon.
Ouais, mais t'as d'autres colonnes.
D'accord.
T'as d'autres colonnes.
Pour l'instant, le mur est toujours défoncé.
Ouais, mais t'as d'autres colonnes qui, sans le 1, ça se trouve, les autres colonnes vont être défoncées aussi.
J'ai compris. Mais écoute bien.
C'est plus grave.
J'ai compris ce que tu veux dire. Mais concrètement, par rapport à ce qu'on veut expliquer ici. Concrètement, cette personne-là, par rapport au niveau, qu'il a, le niveau, a priori, est beaucoup plus fort quand il a réparé sa faute que quand il a simplement dit « je recommencerai plus ». Le rabbi ne dit pas comme ça qu'il faut regarder la chose. Il dit non. Il dit « lorsqu'une personne a fauté, c'est un rachat gamour. C'est un rachat gamour. Lorsqu'il décide de ne plus recommencer, il vient de passer au stade de tzadik. C'est-à-dire qu'il est passé de 0 à 1. Après, dans la phase 2 et dans la phase 3, il va parfaire son niveau de tzadik. C'est-à-dire qu'il va devenir un meilleur tzadik. Mais à quel stade il est passé de rachat à tzadik au premier stade lorsqu'il a décidé de recommencer plus? Voilà pourquoi ce premier stade est le plus important. Parce que c'est le stade dans lequel il est passé de rachat à tzadik. Et ça, c'est un point qu'on va devoir expliquer. On a besoin encore de au moins une bonne demi-heure pour expliquer. Comment ça se fait qu'il y ait des choses dans la vie qu'en un instant on peut passer de rachat à tzadik, et après pour d'autres choses, pour des détails, il faut une vie entière. Vous voyez le paradoxe? Comment d'un côté, en une seconde, je passe du stade de rachat au stade de tzadik, après quand je suis déjà dans le wagon tzadik, on dit « Ah, attention, maintenant tu veux devenir un vrai tzadik, ça va te prendre toute la vie. » Attends, je comprends pas, je dis « Mais je viens de faire un bond de rachat tzadik en une fraction de seconde. Pourquoi vous me prenez la tête pour des détails maintenant ?» C'est les détails, ça. C'est un paradoxe. Comment ça se fait? Alors, le rabbi va expliquer que ce paradoxe, c'est un paradoxe qu'on retrouve dans les trois points capitaux et essentiels qui sont Teshuva, Tefila et Torah. Trois points essentiels du judaïsme. La teshuva, le retour, la tfila et la Torah. Trois points dans lesquels on retrouve ce même paradoxe. Comment d'un côté, il y a un aspect instantané, et d'un autre côté, il y a un aspect illimité qui ne s'arrête jamais. Et que c'est fait, et que c'est pour ça que dans la teshuva, d'un côté, en une fraction de seconde, je passe de rachat à tzadik, et d'un autre côté, une fois que je suis déjà dans le wagon, pour passer dans le même wagon, pour devenir un meilleur tzadik, pour avoir une meilleure kapara, ça prend plus de temps. Comment ça se fait? Alors on va prendre le hot guimel. Vous avez le hot guimel? Ben Aïnanim, Bahem, Mishtavot, Tshuva, Tfila ou Torah. Parmi les choses dans lesquelles la Teshuva, la Tefila et la Torah sont au même niveau. Hu. Chez les Kulan en Shiur, Lo le Maala, Velo le Mata. Le point commun qu'il y a entre les trois, c'est quoi? C'est qu'à tous les trois, ils n'ont pas de commune mesure, ni en bas, ni en haut. J'ai expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire que toutes les trois choses qu'on a dit ici, ils n'ont pas de commune mesure. Il n'y a pas de mesure. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de mesure? Ça veut dire autant je peux le faire en une fraction de seconde, et autant une vie entière ne suffira pas. On va expliquer dans le détail. Al-Tfila, mais ça permet à Gmara. À propos de la Tfila, la Gmara, elle raconte, dans la Gmara Brachot, chez Rabbi Eliezer, Amar al-Talmid, Shaya Marich Uter Midai. Rabbi Eliezer, il disait sur un élève qu'il était Marich Midai, ça veut dire qu'il était trop long sur sa Tfila. Pourquoi il disait ça? Il lui disait, Clou, Marich Uter, Moshe Rabbeinu. Il lui dit, mais je comprends pas, tu veux faire ta Tfila plus longue que Moshe Rabbeinu? Dirtiv be et arbaim ayom, et arbaim alayla. Il dit qu'il y a un élève qui utilisait cette fila trop longue. Quand il disait cette fila trop longue, Rabbi Eliezer lui a dit, mais tu crois pas, tu crois que tu fais ta fila plus longue que Moshe Rabbeinu. Donc, en l'autre terme, il lui a dit, tu fais le malin. Toi, tu crois que tu fais une longue fila. Moshe Rabbeinu, il a fait une fila 40 jours. On lui dit, arrête de faire le malin. Tu crois que tu fais une fila 2 heures, ça y est, t'es excité. Calme-toi, reste tranquille. Moshe Rabbeinu, 40 jours de fila.
Alors, une fila de d'accord? Ou il rajoutait des trucs?
De qui?
De l'élève.
Non, l'élève faisait une longue fila. Du style bon, il fait une fila de 2 heures, tu vois.
C'est la même histoire avec qui a rajouté des
fils. Alors attends, 2 secondes. Ça, c'est la première histoire. Première histoire à propos de la fila, dans laquelle on voit que Rabbi Eliezer, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu fais une longue fila? Mais pas du tout. Moshe Rabbeinu, il faisait une fila plus longue que toi. 40 jours de fila, Moshe Rabbeinu, il a fait. Donc du coup, reste à ta place. Bon. La Harmiken, mais c'est Peretcha Magmara. Juste après, la Gmara raconte là-bas. Shaya Talmid, Shaya, mais qu'est-ce que tu as eu? Il y avait un élève qui faisait la fila trop court. Et que les gens se moquaient de lui, disaient, mais je comprends pas, comment faire la fila trop courte. D'accord? Les gens, ils disaient, mais attends, la fila, ça peut pas durer 5 minutes, 10 minutes. Et là-bas, Vamar Rabbi Eliezer, le même Rabbi Eliezer, il a dit sur cet élève, il a dit, il fait la fila courte, c'est pas grave. Personne n'a fait la fila aussi courte que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Clou, Mekatsar, Yoter, Moshe Rabbeinu, dirtiv, Kel, Na, Refa, Nala. Lorsque Moshe Rabbeinu a prié pour Myriam, il a dit 5 mots. Kel, Na, Refa, Nala. Dieu de grâce, Refanala, guérilla. D'accord? De grâce, c'est tout. Guérilla. Ça fait 5 mots. Donc, on voit le même Rabbi Eliezer. D'un côté, il avait un élève qui faisait la tefila un peu trop longue. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu crois que tu fais une longue tefila? Moshe Rabbeinu, 40 jours de tefila, il avait fait. Calme-toi, reste tranquille. D'un autre côté, le même Rabbi Eliezer, un autre élève qui faisait une tefila courte. Et que les autres élèves, quelque part, se moquaient. Mais ils disaient, t'as vu celui-là, bon, il fait pas une bonne tefila. Il a dit, mais pas du tout. Cette fila est déjà meilleure que celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, cette fila 5 mots. Celui-là 5 minutes, c'est pas mal. Le même Rabbi Eliezer. Il y a un problème. Alors, qu'est-ce que tu veux, la fila courte ou longue? D'accord? Donc on a un exemple du paradoxe qu'on a à propos de la fila. Que la fila ne dépend pas de la quantité. Ça dépend de la qualité. C'est là le paradoxe. On va expliquer après comment ce paradoxe on le retrouve dans la tchouva. Mais déjà on le voit dans la fila, c'est évident, là, ça saute aux yeux. Comment un élève qui faisait un peu le malin, on dit écoute, je suis revenu 40 jours alors, tu te calmes. Hein. D'un autre côté, un autre élève qui apparemment avait la qualité mais pas la quantité, les autres se moquaient, ils disent mais attendez, moi je suis revenu, la qualité, on peut l'avoir même en 5 mots la qualité. Donc là on a un vrai exemple d'un paradoxe. Comment d'un côté, t'en as un qui fait très long et ça marche pas, c'est pas assez. Un qui fait très court, on lui dit mais c'est déjà super ce qu'il a fait, il y a plus court que lui. Et n'oubliez pas que le maître qui parle, c'est toujours Rabbi Eliezer, et la référence qu'il a prise, c'est toujours Moshe Rabbeinu. Ah, il y a un problème. D'accord? Et les deux, c'est ses élèves. C'est pas fini. Car Gam Benoga le Torah. Il en est de même au propos de la Torah. Arrête. D'accord?
Mais c'est parce qu'il a fait des courses qu'il a fait de qualité.
Ah, a priori, il y a un problème là sinon. Je sais pas, il y a un problème sinon. À moins que Rabbi Eliezer, je sais pas, il y a un chouchou comme il dit.
C'est ça qu'il a voulu dire. Que ça peut être long, ça peut être court.
Il peut faire vite parce qu'il base.
Sur celle de
Moshe, d'accord.
Tu doutes de la qualité aussi ou pas? Non, mais sur celle de Moshe, c'est court aussi. Tu doutes de la qualité aussi ou...
Non.
Alors
sur l'élève, je doute de la qualité.
Ouais, pourquoi tu...
La manière que je doute de la qualité sur le premier, la manière que je doute de la qualité sur le deuxième.
C'est pour ça que je pense qu'on a le soulevé.
Alors, on y va.
Non, parce que on a dit que la tfila, c'était une misa, il fallait vraiment avoir la kavana. La tfila, ouais, c'est une misa, vraiment c'est important d'avoir la kavana dans la tfila.
Oui.
Avoir la kavana quand tu vas très très vite, c'est pas évident.
D'accord. C'est pour ça que je te dis ici. On voit que le même Rabbi Eliezer, autant sur un élève il a dit il fait pas assez long, autant sur un autre élève il a dit c'est bon ce qu'il fait. Il y a un problème. Donc ça veut dire quoi?
Là c'est 4-5 mots. Donc,
5 mots, c'est
peut-être
tout.
Peut-être que l'élève faisait une tfila de 6 mots.
Oui.
7 mots.
Peut-être. Ça
comment
suffisait.
Comment tu peux penser que ça suffit?
Bah parce que.
Mais parce que non. Parce que il faut dire les 18 bénédictions.
Mais on n'en sait rien ce qu'il a fait. Non, David, excuse-moi. Non, je vais donner un verre d'eau, j'ai très soif.
Oui. Ça sera du robinet, hein.
Oui, c'est bon.
Parce que j'ai pas vu de bouteille.
Aussi,
non, certainement, mais je ne discute pas ce qu'il va dire. Je ne discute pas Rabbi Eliezer. J'essaie de comprendre ce qu'il dit Rabbi Eliezer.
Ce qu'il veut dire ici, Rabbi Eliezer, c'est que ce qu'on veut illustrer ici, c'est le paradoxe qu'il y a dans la tfila.
Sinon, tu es obligé de le reprocher.
Comment d'un côté, une longue tfila n'est pas assez longue, et d'un autre côté, une tfila qui est courte est déjà assez longue, trop longue même.
Donc, il favorise le court.
Non, il a pas dit, j'ai pas dit ça.
Si.
Mais non. Parce qu'au début, j'ai dit qu'il y a une personne qui faisait une longue tfila, et il lui dit que cette tfila n'est pas assez longue.
Il n'a pas favorisé le long.
Non, il a pas dit qu'elle était pas longue.
Si.
Elle a dit qu'elle était trop longue.
Pas du tout. Ouais, pas du tout.
Il
lui a dit, tu crois que cette fila est longue? Moi, je suis revenu 40 jours de cette fila, il a fait. Donc, elle est pas assez longue.
C'est pas ça qu'il veut dire. Attends. Moi, je comprends pas comme ça, histoire.
Moi, je comprends comme un reproche aussi.
Ben oui.
Que quoi?
Ta fila, tu fais une fila aussi longue.
Mais pas du tout.
Tu veux faire le malin?
Oui.
Moi, je suis le fais encore plus long. Autrement dit, ta fila, elle est trop longue.
Sinon,
le. Mais ta fila est trop longue.
Ça veut pas dire qu'elle est pas assez longue par rapport à M. Rabbeinu.
Non. C'est-à-dire que toi tu fais le malin, toi tu malin, dis moi je fais une bonne tfila, une longue tfila, mais sache que Moshe Rabbeinu c'est 40 jours de tfila, donc calme-toi.
C'est-à-dire quoi calme-toi?
C'est cet élève. Oui.
Non. Ça c'est important.
D'accord. Donc explique le Rabbi, on a ici le premier exemple d'un paradoxe. Comment d'un côté c'est pas assez court, d'accord? Ah ben voilà. Il n'y a pas de verre, les verres sont là-bas aussi.
C'est trop long, David, là. C'est trop long.
Oui, dans lequel j'ai vide.
Ça fait vite, quand même.
Ok. Alors, Torah. Deuxième exemple. Car Gab et Nogal et Torah. Il en est de même à propos de la Torah. Arrêt. Mitzad echad tzarich liot, lo pasik poumé migirsa. D'un côté, on nous dit qu'il ne faut jamais arrêter d'étudier. D'accord? Enfin, un seul instant arrêter d'étudier. À tel point, on dit que quoi? On dit que, la Gemara nous dit, V'af im lomet, qui plutôt, que c'est comme le sens simple.
Amen. Je suis sportif.
Non, c'est pas bon. Non, j'en bois pas du rouge.
Tu vas t'en donner
de c'est comme ceux qui vont au McDonald's qui demandent...
On va pas au McDonald's, non, monsieur.
Ils demandent un cheeseburger avec un coca light. Pour le...
Le goût,
écoutez, moi j'ai rien d'autre. Non,
c'est une faute. Après avoir une colonne pour...
Je vais vous faire un petit café. Bon, tant pis.
C'est bon, on y va. Alors, on continue. Donc il dit comme ça. Il dit... À propos, donc, il y en est de même à propos de la Torah. D'un côté, on nous dit qu'il ne faut pas s'arrêter un seul instant d'étudier. Kipchuto. Ça voudrait dire quoi? Afim Lomed. 23 shahot, d'accord? Même si une personne étudie Esrim et Shalosh shahot, 23 heures, d'accord? Et 59 minutes. Verega Echad en Lomed. Et qu'un instant, il n'étudie pas. Alav, Darshur, Rabotenu, Zichron, Elvracha. Et bien, la Gemara nous dit... Sur une personne comme ça, on dit, qui devra Hachem Baza, il a fait honte à la parole de Dieu, il sera retranché, etc. Qui fait chez Rabbeinu Azaken, mais ville, elle, Khalek, Alep, Ferin, Kalef, comme ce qu'on a étudié dans le premier chapitre du Tania. C'est Gmara Meforacha, Gmara Claire. Donc d'un côté, on te dit que si tu mentes même un instant, le gars, il a étudié 23h59. Il a fait les 24 heures de Torah. Il y en a qui font 24 heures du Mans, lui, il veut 24 heures de Torah.
C'est pas possible.
Deux secondes.
Ça fait rêver. Il n'y avait pas la télé.
C'est juste possible.
Et comment il va aux toilettes?
Il a fait 24 heures de Torah. 24 heures, il a tenu. Il n'a pas mangé, il jeûne. Une seconde, une minute, il s'arrête.
D'accord, mais le lendemain, comment
il... Une minute, il s'arrête, qu'est-ce qu'on lui dit? Il a fait honte à la parole de Dieu, carrette. Retranché, dehors, pas gay, homme, etc. D'accord? D'un autre côté, d'un autre côté. Tchatchini d'un autre côté. Chatatrak, quand c'est un moment difficile, quand on n'a pas le choix. Chatirdak de la Utermidaï. Que Chatirdak de la Utermidaï, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Et qu'on est occupé. On est occupé avec des affaires. Qu'est-ce qu'on te dit dans ce cas-là? Vechen gam amaret chenitadin mode. Ou bien, un autre cas, c'est un amaret qui ne sait pas utiliser. Même s'il veut, bon, il a du mal. Il n'arrive pas à utiliser dans les supports. Dans ce cas-là, Mekayem mitzvah Talmud Torah bikrat shema. On dit, c'est pas de problème. Tu fais le schéma, tu crées le schéma. Tu comprends pas, c'est pas grave. Tu fais le schéma, t'as compris que tu crois en Dieu. T'as déjà fait la mitzvah Talmud Torah. Pas de problème. Je l'ai déjà fait en 30 secondes. T'es yotze, t'es quitte. Va kavana et gambe pas sous chez kriat shema. Même si la personne ne connaît même pas le reste du schéma, il connaît que le premier pasouk du schéma. Le schéma Israël, le schéma Lokan Shema, il n'y a pas de problème. T'as déjà fait la mitzvah d'étudier la Torah. Share ze ikar kriat shema, puisque ça, c'est l'essentiel du kriat shema. D'accord? Donc il amène les références, etc. Shachari Zervit, il n'y a pas de problème. Tu fais le premier paragraphe du schéma le matin, le soir, t'es quitte. Veillez Teralken, plus que ça. Mais pas sous Kechad du Kriat Shema Shachari Zervit, avec un verset du Kriat Shema du soir et du matin et du soir, ou Mekayem Mitzvah Zagitabo Yoman Valaila. Il y a une mitzvah que tu devras être occupé, préoccupé par la Torah jour et nuit. En faisant un verset le matin, un verset le soir, il accomplit cette mitzvah. Vous voyez le paradoxe là? Ah là là, paradoxe, c'est grave là. D'un côté, t'as un rabbin qui étudie 23h59, une minute il a manqué, bac, on lui tombe dessus. D'un autre côté, on a une personne qui va faire un pasouk le matin, un pasouk le lendemain, on dit écoute, quoi la cavode, bravo, c'est bien. Quoi la cavode, hein, c'est ça ta question que tu poses souvent, Yango. Un problème là. Bon, d'un côté, on exige beaucoup de certaines personnes. De l'autre côté, d'une personne, il arrive au dixième au millième, il dit, ah, quand la cavote, bravo, Razak. Problème.
Tu vois.
Donc il y a un paradoxe. Donc il y a un problème. Ce même paradoxe qu'on a eu à propos de la tefila et qu'on a eu à propos de la Torah, on a exactement le même paradoxe à propos de la tshuva. C'est là où le rabbi va en arriver. Car gam benegay et tshuva, il en est de même pour la tshuva.
La chassidoute va en arriver.
Arrête. Mitzadechad roimanu. Sheyicholim la tshuva gam beregaich. Il en est de même à propos de la tshuva. D'un côté, on voit qu'on peut faire tshuva même en un seul instant. Kanal teivet. Comme ce qu'on a dit au début de la sira. Qu'en un seul instant, en une fraction de seconde, on peut passer du stade de racha gamo à tzadik gamo. On l'a dit. Ou les idar qui ça, mais d'un autre côté, kshadam yodea avonot shasa, quand un homme sait les averot qu'il a fait, kfishi adai nish benafshe, comme une personne se connaît, aux autres on raconte l'histoire, pas à soi-même. Ou miuchad gimel averot, et particulièrement les trois averot, ch'en adam nitsol meem bechol yom, les trois averot qu'une personne ne peut pas être quitte tous les jours. Ça veut dire, par exemple, la shonara, le fait de ne pas étudier la Torah, le fait de ne pas faire la tefila comme il faut, c'est trois véros, la Gemara Bava Batra nous dit qu'il n'y a pas une personne par jour qui ne manque pas de faire sa véros comme il faut. Arrêt. Gam im yaviu kol ele nevayot sheva olam. Même si on amenait les plus beaux sacrifices qui existent du monde. Les meilleurs sacrifices du monde. Adaïn lui explique à Davar, ça ne suffira pas. D'accord? Ça ne suffira pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si on dit que ça ne suffira pas? Chez la reine, mais ça paierait ta Gemara, c'est pour ça que la Gemara raconte. Al-Baba ben Bouta, Shaya Mevi Hasham Talouy Becholiam. C'est pour ça que la Gemara raconte sur Baba ben Bouta, qui a amené un sacrifice tous les jours, chaque jour. Tous les jours, il a amené un sacrifice, pourquoi? Un sacrifice qu'on appelait Hasham Talouy. Hasham Talouy, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un sacrifice pour lequel, comme il avait un doute, peut-être qu'il a fait une faute, donc quand une personne a un doute, peut-être qu'il a fait une faute, il amène un korban Hasham. On appelle Hasham Talouy. Vous voyez le paradoxe encore une fois? Comment d'un côté, qu'est-ce qu'on a vu? En une fraction de seconde, on passe du stade de Racha Gamour à Tzadik Gamour. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on a dit? On peut avoir des plus grands tzadikim qui amènent un korban parce qu'ils se disent peut-être qu'il manque quelque chose. Donc on a un paradoxe. Comment ça se fait qu'il y a ce paradoxe, particulièrement dans ces trois choses-là? C'est ce qu'on appelle des choses que N la M Shiur, des choses qui n'ont pas de mesure. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a pas de mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure. C'est-à-dire autant tu fais beaucoup et c'est pas assez, et autant tu peux faire très peu et c'est largement suffisant. Comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait que c'est comme ça? Alors le rabbi, il dit, t'as un mot, Sheldava, hein, la raison. Madoua en mishloshet varim elu shio, lo le malav, lo le mata. La raison pour laquelle ces trois choses-là n'ont pas de mesure, lo le malav, lo le mata, donc ni en haut et ni en bas, ou, shatzad ashavesh bechol gimel varim ele ou, shem yotzri metziu tradasha. Le point commun qu'il y a entre ces trois choses-là, c'est que ces trois choses-là vont créer une nouvelle réalité. C'est le chidouche qu'explique le rabbi. Le point commun qu'il y a entre ces trois choses-là, c'est que ces trois choses-là créent une nouvelle réalité. J'explique. Al-Torah, à propos de la Torah. Allez, messieurs, je sais qu'il y a beaucoup de détails, mais c'est important de suivre. Vous avez dans les mots Al-Torah, Al-Torah ici. Al-Torah, Katou, à propos de la Torah, il est écrit. Amelamed et ben travero Torah, ma'ale alav akatouf kilou yeladou. Que celui qui enseigne à son fils, au fils de son ami, pardon, la Torah, ma'ale alav akatouf kilou yelado, comme si qu'il avait enfanté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on enseigne la Torah crée une nouvelle réalité. Vous êtes d'accord? Deuxième chose. Al tefila katouv, à propos de la tefila, il est écrit. Shebeshat at tefila tsrichim la amot ki eved bifne rabo. Que au moment de la tefila, on doit être comme un esclave devant son maître. Ve eved, are eino shumetziut leatzmo. Un esclave n'est pas une existence pour soi. Kol metziuto rechusha adon. D'accord. Là, le rabbi est en train d'expliquer la raison pour laquelle on a un paradoxe dans ces trois points qui sont, rappelez-vous, la Torah, la Tfila et la Teshuva. Donc je répète, c'est quoi le paradoxe de la Torah? Allez, qui peut répéter? Paradoxe de la Torah, c'est quoi?
Si j'avais su qu'il dit 23h59, oui. Il a fait plutôt le Torah.
Oui.
C'est lui qui lui dit, c'est juste le schéma le matin et le schéma le soir. Le premier paradoxe, c'est fini.
Oui. D'un autre côté, alors ça c'est la Torah, la Tfila maintenant.
La Tfila, qu'il y en avait un et il prie longtemps et on lui a dit... tu pries longtemps, mais Moshe Rabbeinu n'a prié plus longtemps que toi. Et là, il a prié très très très, très court. Il a dit, c'est déjà fait pas mal, puisque la prière la plus courte que Moshe Rabbeinu, il a dit...
Donc ça veut dire quoi?
Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de mesure.
Il n'y a pas de mesure, d'accord. C'est le deuxième exemple. Troisième exemple, c'est quoi, oui?
C'est souvent.
Oui, que quoi?
Que... Et que les Rabbanim... C'est l'équipe. Il a amené un sacrifice tous les jours. Parce qu'il se disait, ça se trouve, des choses qui sont, je sais pas encore fait chaud complètement.
D'accord. Donc ça veut dire quoi?
Pas de mesure aussi.
Pas de mesure.
C'est-à-dire pas de mesure. Donc il y a un problème.
Il y a un problème.
Ils ont tous un problème.
Ça va un sac de...
Le quoi? Alors, donc il y a un problème. Comment ça se fait que c'est comme ça? Particulièrement ces trois choses-là. On n'a jamais vu ça dans une autre mitzvah.
On avance.
Le rabbi explique que c'est très simple. Il dit parce que ces trois choses-là, le point commun qu'il y a entre ces trois éléments-là, c'est que les trois éléments créent une nouvelle réalité. Chose qu'on ne retrouve pas particulièrement dans les autres mitzvahs.
On avance.
Par exemple, je mets les tefilines. Ça ne crée pas une nouvelle réalité. Ça me soumet un peu plus à la Kadosh Baruch Hu, mais ça ne crée pas une nouvelle réalité. Maintenant, on va expliquer comment dans les trois choses qu'on a dit, ça crée une nouvelle réalité. Le premier, c'est la Torah. C'est écrit que celui qui, la Gemara a dit que celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est considéré comme si qu'il a enfanté. De quoi on parle là-bas? On parle d'une personne du préserve qui n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand on enseigne la Torah à quelqu'un, c'est comme si qu'on l'a enfanté.
Ouais, quel rapport qu'il y ait des enfants ou quoi?
Bonsoir. Comment allez-vous?
Quel rapport que...
C'est un bout de temps que vous n'avez pas vu. Bonsoir.
Quel rapport?
C'est Birenbaum. Yves, comment allez-vous?
Bonsoir. Je viens de Vienne, j'étais en Autriche.
Vous êtes toujours le bienvenu. Venez, prenez une chaise, installez-vous.
Quel rapport qu'il y a des enfants ou pas?
Quel rapport? Non, le rapport c'est qu'on nous dit qu'on parle ici d'une personne, on parle ici d'une personne qui n'a pas d'enfants.
C'est là des enfants.
D'accord. Oui, c'est des enfants aussi, c'est pareil. C'est le cadre dans lequel on parlait. Donc ça veut dire quoi? On est en train d'expliquer que le point commun qu'il y a entre les trois choses, les trois éléments qui sont... Je sais pas si tout le monde le connaît, mais tout le monde... Yves Birenbaum. Alors, je suis en train d'expliquer le point commun qu'il y a entre...
Les enfants.
J'ai pas compris.
Parce que tu as dit, est-ce que tout le monde le connaît, non?
Ah, pas de... Mais il est venu encore, le Tania? Plusieurs fois?
Tu es venu.
Tu te rappelles pas?
C'était peut-être pas là, c'est ça.
C'est ça.
Hein?
C'est quoi? Excusez-moi parce que...
Ouais, ok. J'étais en train de dire, le point commun qu'il y a entre les trois éléments qui sont Torah, Tfila et Tshuva, c'est que ces trois éléments créent une nouvelle réalité. On va commencer à propos de la Torah. À propos de la Torah, la Gemara Sanhedrin nous dit que quand on enseigne la Torah à quelqu'un, c'est considéré comme si qu'on le fait naître. Donc la Torah change la réalité, la Torah crée une nouvelle réalité chez la personne. D'accord ? Ça, c'est la première chose. À propos de la Tfila, c'est écrit que lorsqu'on est au moment de la Tfila, on doit se sentir comme un esclave devant son maître. Un esclave devant son maître, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est une nouvelle réalité, on est une nouvelle personne. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir une nouvelle personne après une Tfila ? En tout cas, la Tfila a le pouvoir de le faire. La prière a le pouvoir a le pouvoir de nous rendre une nouvelle personne. Ça veut dire qu'avant, je faisais un peu ce que je voulais, et là, maintenant, je deviens comme un esclave, je décide d'écouter ce que je demandais, ce qu'on me demandait. D'accord ? Donc, ça veut dire que la Tfila va créer une nouvelle réalité. Ça a le pouvoir de créer une nouvelle réalité. Je ne serai plus la même personne que j'étais avant. La Torah crée une nouvelle réalité, la Tfila crée une nouvelle réalité. Explique l'Edmour Hazaken. Kargam, dans les mots, on va lire dans les mots, après on va expliquer. Kargam, de la même manière, Teshuva yotzeret metziut radasha. La Teshuva crée une nouvelle réalité. Canal, comme on a dit. Sheu mitralev le tzadik gamour. Que la personne, Sheu mitralev mi racha gamour le tzadik gamour. La Teshuva crée une nouvelle réalité. Que la personne passe instantanément du stade de racha au stade de tzadik. Donc on est passé ici, on a changé de réalité, on est passé à une nouvelle réalité. Alors dit le rabbi, il dit, Zehu atam avdimi. C'est la raison profonde. Pourquoi? Madoua asur lomar le baal teshuva, zechor maasera arishonim. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de dire un baal teshuva, nous dit le Rambam. Rappelle-toi de ce que tu as fait. Rappelle-toi un jour, tu as fait les 400 coups. Prends la parole du rappeler, parce que c'est une nouvelle personne. La raison pour laquelle on pense, pourquoi normalement on a pas le droit de rappeler un baal teshuva, parce qu'on dit ça se fait pas. Tu te rappelles, mais quand tu rappelles tes fautes, pourquoi tu rappelles? C'est toi. Explique le rabbi, dit non, c'est pas ça la raison. La raison profonde pour laquelle on rappelle pas un baal teshuva ses fautes, c'est parce que étant donné que le baal teshuva c'est une nouvelle personne, c'est comme un enfant qui vient de renaître. Donc quand tu le rappelles, il dit mais c'est pas lui, c'est une autre personne. Pourquoi? Parce que rappelez-vous ce que le rabbi explique ici, la force de la teshuva, c'est que la teshuva a la possibilité de changer la réalité, de faire qu'on a devant nous une nouvelle personne. Il y a uniquement trois mitzvot qui ont ce pouvoir. La Torah, la Tfila, la teshuva. Trois mitzvot qui ont le pouvoir de changer la réalité. C'est-à-dire changer la réalité d'une personne. Trois mitzvot, et uniquement ces trois mitzvot.
C'est l'aka.
Non. L'aka, ça peut enlever un décret, ça peut faire des choses, mais ça ne change pas la personne. Ça ne crée pas une nouvelle chose chez la personne. Non. Quand je donne la tzedaka, est-ce que ma main a changé? Est-ce que moi j'ai changé en donnant la tzedaka? Non. Pas forcément.
La Torah, c'est quoi? Parce que la Torah, ça enlève tout. C'est devenu quelqu'un
de trop large. La Torah, ça fait renaître une personne.
Mais la Torah, ça englobe tout. Ah. C'est mitzvot, donc c'est quoi c'est...
L'étude de la Torah.
Oui, mais c'est la même.
Non.
L'étude, c'est tout.
Non, pas du tout, l'étude, c'est pas tout.
Bah, les mitzvot que tu peux plus faire en étudiant, c'est comme si tu les faisais.
Bien sûr. Non, j'ai pas dit que c'est comme si je faisais les mitzvot, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en étudiant la Torah, ça change la réalité de la personne, on devient une nouvelle personne.
Ouais, il y a trois cas.
Trois cas, trois mitzvot.
Tu es un peu aussi même.
Pareil, je prends cette idée là.
C'est teshuva, ça rend dans le cas de la teshuva. Oui. Alors, Zo, donc il avance, il dit, Mipne Sheuna Seadamacher, parce qu'il devient une autre personne. D'accord? Il devient une autre personne, et alors? Et, Umaasa Varishonim Ena Mitiachasim Elav, et ses premiers actes ne lui sont plus attribués. Donc, c'est plus moi. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pourquoi on dit que ça crée une nouvelle réalité? Zoï tralfout mimavet lechaim. C'est-à-dire que lorsqu'une personne fait teshuva, il est passé du stade de la mort au stade de la vie. Quand je parle de mort, je parle de mort spirituelle. Il est passé du stade de la mort au stade de la vie. Pourquoi? Puisque rechaim et chayim kruim metim. D'accord? Les rechaim dans leur vie, ils sont appelés des morts. Ils sont appelés morts. Ou besha sheu ose teshuva. Et lorsque on fait teshuva, una se mudak bishrina. Le rachat est appelé mort. Le rachat, c'est le mécréant, est appelé mort spirituellement. Lorsqu'il fait teshuva, tout de suite, il s'attache à la shrina. Donc, on a un exemple comment la teshuva a la capacité de changer la réalité. Ou besha, sheveatem, advekim, vachem, elokechem, ariam, chayim, kulcham, ayam. Que le rôle de la teshuva, c'est quoi? C'est que ça permet à l'homme de s'attacher à la shrina. Si je m'attache à la shrina, donc du coup, je deviens vivant. Puisque qu'est-ce qu'il dit le verset? Il dit, vachem, advekim, vachem, elokechem. Quand on s'attache à Kadosh Baruch Hu, Chaim, Kulechem, Ayam, on devient vivant. Donc teshuva est égal à vie. Donc on a ici un exemple, comme on voit clairement, dans lequel la personne est passée du stade de mort au stade de vivant grâce à la teshuva.
Alors quand elle fait kapara, quand elle fait la deuxième partie, quand elle fait la troisième partie, c'est-à-dire elle amène le corban, etc., elle amène le corban de quelqu'un d'autre.
Elle amène le
corban pour quelqu'un
d'autre. Oui, bien sûr. Pour une autre personne. Bien sûr. Oui, ça, c'est pas moi. C'est comme ça me rappelle. Il y a un enfant qui me l'a sorti ce Shabbat. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il était en train de prendre. Je sais pas, il joue avec quoi? Il joue avec au frisbee, avec une assiette ou je sais pas quoi. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, c'est pas moi, c'est ma main. Comme ça, hein, naturel. Tranquille. C'est pas moi, c'est ma main. Hein? Ah, j'ai pas pensé à lui répondre ça. Alors, donne-moi ta main, c'est pas toi. Ça, tu pleures pas, c'est pas toi, c'est ta main. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dit le rabbi, il dit, Velachen, shloshet advarim, amurim, en laem shiur. C'est la raison pour laquelle les trois choses, donc je résume, les trois choses qu'on a citées. Torah. D'accord? L'étude de la Torah. La teshuvah. Le retour vers la Kadosh Baruch Hu. Et la tefila, la prière, c'est trois choses qui n'ont pas de mesure. Qui n'ont pas de commune mesure. On explique comment autant la teshuva on peut la faire en une fraction de seconde, autant une vie entière ne peut pas suffire. Donc c'est un paradoxe. On a expliqué la même chose sur la Torah. Autant j'étudie la Torah toute la journée, c'est pas assez. Autant une personne qui étudie un petit peu le matin, un peu le soir, ça peut être assez. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure pour tout le monde.
Mais ça va être assez,
pardon. On a expliqué qu'on a le même problème à propos de la tefila. Autant la tefila peut être trop longue, autant elle peut être trop courte. Pourquoi? Comment ça se fait? Alors Bill dit c'est très simple. Il dit parce que le but de toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est de changer la réalité. Combien de temps ça prend pour changer la réalité? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui changent la réalité très rapidement. Et qu'en une fraction de seconde, ça a changé. C'est devenu une nouvelle personne. Et il y a des gens chez qui, pour changer la réalité, ça leur prend des mois, des années. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mesure. Parce qu'on ne peut pas donner de mesure. Ça dépend de chaque personne. C'est comme je te dis, c'est comme si on devait donner une mesure, par exemple, combien on doit manger par jour. Tu peux pas donner, mais ça dépend de chacun. Ça dépend de ce qu'il a besoin, ça dépend de son poids, ça dépend de combien il se dépense, ça dépend des tas de choses. Parce que le but, pourquoi je mange? Je mange pour avoir des forces, je mange pas pour manger. Si je mangeais pour manger, dans ce cas-là, on peut donner une commune mesure pour tout le monde. Puisque je mange pour avoir des forces. Donc on peut pas donner une commune mesure. Chacun a sa mesure. Chacun a sa mesure par rapport à ce qu'il a besoin. C'est la même chose par rapport aux trois choses qu'on a dit. Étant donné que le but de ces trois choses, c'est quoi? Le but de ces trois éléments, c'est de créer une nouvelle réalité, de changer la réalité. Ça veut dire, le but de la Torah, c'est de changer la personne. De changer l'optique de la personne. Le but de la Tfila, c'est de changer l'approche de l'homme envers un Kadosh Baruch Hu. Le but de la Teshuvah, c'est de changer la personne du stade de mort spirituelle au stade de vie spirituelle. Donc ça prendra le temps que ça prendra. On ne peut pas savoir combien de temps ça va prendre. Impossible de savoir. Qu'est-ce qui explique ici le Rabbi? Et c'est la raison pour laquelle on a ce paradoxe dans la Teshuvah. Mais on retient quoi au passage? Ce qu'on retient au passage, c'est qu'en vérité, le stade le plus important de la Teshuvah, c'est quoi? C'est le stade numéro 1, dans lequel la personne décide de ne plus refauter. Parce que là, il a réussi à passer de Rachat Gamour à Tzadik Gamour. Donc, il a créé une nouvelle réalité. En créant une nouvelle réalité, il a déjà fait l'essentiel de la Teshuvah. Après, il est en train de parfaire. L'essentiel de la Teshuvah, c'est quoi? C'est le fait de créer une nouvelle réalité. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est très important. Et avec ça, on comprend bien ce que l'Admor HaZaken avait expliqué dans le premier chapitre. Il a dit que c'est quoi la Teshuvah? C'est décider de ne plus refauter. C'est pourquoi décider de ne plus refauter? Alors, Rabbi explique, c'est pourquoi décider de ne plus refauter? Ça veut dire que décider que dorénavant, la réalité d'aujourd'hui sera une nouvelle réalité qui n'a plus rien à voir avec la réalité d'avant. Et que c'est pour ça qu'on ne pourra plus me rappeler mon passé d'avant puisque je suis une nouvelle personne. Une fois qu'une personne a compris ça, même s'il le fait en une fraction de seconde, c'est suffisant. Vous comprenez?
Mais la tâche, vous allez la nettoyer.
D'accord. Ça, c'est un détail. Parce que ce qui compte dans la teshuvah, c'est de changer, c'est le fait que j'ai changé ma réalité. Une fois que j'ai changé ma réalité, après, c'est facile. Une fois qu'il y a un déclic dans la tête, que j'ai compris que c'est pas bien ce que je fais. Après, c'est du gâteau. C'est comme du préserve, vous savez, dans les troubles psychologiques. Vous savez, des gens qui ont des troubles psychologiques. On a des années, essayer de les convaincre que ça va pas. D'accord? Mais ça va pas. Ou bien des gens qui sont malades. Ils sont malades, ils ont pas envie de se soigner. Ils sont malades, ils doivent aller à l'hôpital, ils ont malade du cœur, par exemple, des choses comme ça, ils veulent pas se soigner. Prends des années avant de les convaincre. Après, un jour, ils disent, bon, ça y est, j'ai compris, tu m'as convaincu. Il y a un déclic qui se passe. À partir de ce moment-là, le reste c'est du gâteau. Bien sûr qu'on n'a pas dit qu'il est guéri encore. Après, il faut guérir, il faut aller chez le docteur, ça prend du temps. Mais c'est du gâteau. Pourquoi c'est du gâteau? Parce que l'essentiel a déjà été fait. Le déclic a déjà été fait. Le changement de nature a déjà été fait. La nouvelle réalité est déjà là. Il a accepté ce qu'il avait. Donc c'est bon, c'est fini. Il a décidé de vouloir guérir, donc c'est fini. Le reste va suivre. Ce qu'explique l'Edmond Razaken. Enfin, c'est comme ça qu'explique le Rabbi, ce qu'explique l'Edmond Razaken. Que, c'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est décider que dorénavant, ce sera une nouvelle réalité. Voilà pourquoi la première phase est la phase clé et la phase la plus importante. D'accord? Oui? Ok. Alors, donc il continue ici. Il dit que... Alors, dans les mots, il continue. Voilà. Donc, Velachen, c'est pour ça. Shloshet advarim amorin en laim shio. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire qu'il n'y a pas de commune mesure. D'accord. Ok. Alors, on va passer au Hotvav, d'accord. On va étudier encore 2-3 minutes, je dois m'arrêter un peu plus tôt aujourd'hui. Les fils des Mouvan, on va s'arrêter à moins 20. Les fils des Mouvan, Aïlou, Shieshlo Bekar, Shada, Mitralef, Verachagamou, le Sadi Gamou. Al-Kapara, Viliat, Morotse, Vechavi. Avec ça, on va comprendre comment ça se fait que le rôle le plus important de la Teshuvah, c'est quoi? C'est de passer à la première phase, le premier cap, de décider de ne plus refauter. Et que ça, c'est le plus important. Et puis, une fois qu'on a décidé de ne plus refauter, après le reste, c'est du gâteau. Le bouquet de fleurs, c'est du gâteau. Pourquoi? Il explique ici, je passe au paragraphe suivant. Aïtral fout meracha gamour le tzadik. Le fait qu'une personne va changer du stade de racha à tzadik, mais avait nekudat achayut amitra deshet ba'adam. Ça représente le point de l'énergie. Ça veut dire, il dit comme ça. Il dit que, toujours, quand on voit une personne qui vit, il y a toujours ce qu'on appelle la nekuda, l'essence de la personne. L'essence de sa vie. Pourquoi il vit? L'essence. Alors c'est très difficile à voir dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, on vit et c'est tout. D'accord? Mais quand est-ce qu'on retrouve cette essence? C'est dans les moments difficiles. Qu'on découvre une envie de vivre qu'on n'a jamais eue. C'est là qu'on découvre ce qu'on avait au fond de nous. Parce qu'en général, dans la vie de tous les jours, on vit pour vivre et c'est tout, on ne réfléchit pas. Mais quand c'est des moments extrêmes, on a cette essence qui se réveille. C'est-à-dire on sent qu'on a une nouvelle réalité. Explique le rabbi, il dit, c'est très simple. Il dit pourquoi c'est très important la Teshuvah, et surtout la première phase de la Teshuvah. Il dit parce que, avant qu'une personne fasse Teshuvah, le fait qu'il ait racha, ça ne le dérange pas. Ça n'a rien à faire. Ça lui fait rien du tout. Il vit bien. Ça lui fait ni chaud, ni froid. Qu'est-ce qui s'est passé le jour où il a fait Teshuvah? On n'a pas dit qu'il a réparé ses fautes. Et quel est le déclic? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que dorénavant, dans son essence, ça le dérange qu'il a fait une avéra. Il n'a pas réparé encore. Mais dorénavant, dans son essence, le moteur a changé. Le moteur avant était éteint, il n'en avait rien à faire. Maintenant, on a allumé le moteur. L'essence est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réparer. C'est pour ça que le plus important dans la Teshuvah, c'est quoi? C'est la décision que la personne va prendre de ne plus recommencer. Que là, c'est l'essence, c'est le début de la flamme. Bien que pour l'instant, tu vois rien. C'est une décision que peut-être, concrètement, on ne va pas voir que la réalité a changé. Tu ne le verras pas. Mais c'est ça qui fera que par la suite, la personne se comportera bien. Voilà, explique le rabbi pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, quand une personne, il faut jamais négliger la teshuvah de qui que ce soit. Et que lorsqu'une personne fait teshuvah, même si c'est juste une décision d'une fraction de seconde, et que ça nous paraît anodin, ça nous paraît pas important, il faut jamais négliger la teshuvah de qui que ce soit. Parce qu'une teshuvah, ça nous paraît rien du tout. Je dis, bon, j'ai décidé de bien comporter. Et alors, concrètement, j'ai pas bien comporté. Non. Attention. T'as décidé. C'est très bien. Ça veut dire que ça te dérange. Si ça te dérange, c'est déjà très très bien. C'est-à-dire que t'acceptes que tu es malade. T'acceptes que tu es malade. Mais c'est bon, c'est fini, on est déjà dans la bonne piste. C'est déjà dans la piste. C'est ok, c'est bon, on avance. Le pire, c'est une personne qui est rachat qui n'accepte pas que c'est un problème. Voilà pourquoi la Gemara Zakai nous a mis le fait d'accepter qu'il faut changer, il nous l'a mis en tant que première phase de la Teshuvah, puisque ça, c'est la phase la plus importante. Une fois que j'accepte que je suis malade, après le reste du gâteau. Ça s'arrête là pour aujourd'hui. Mais rattaché à la semaine prochaine, on aura le résumé sur papier comme prévu. Voilà. C'est une conclusion de... La semaine prochaine, si vous venez, vous êtes là, vous êtes...
Je sais pas.
Sur Paris, on aura un résumé la semaine prochaine. Voilà. Allez, on s'arrête là.
Ça, il est sur le bon chemin. Pourquoi il est sur le bon chemin? Parce que ça va s'arrêter,
ça? Non, parce qu'il est sur le bon chemin parce que maintenant, ça le dérange. Donc c'est bon. Tu as raison. Mais c'est déjà très bien. Parce que l'essence est là. J'ai pas dit qu'il a guéri, il a pas guéri encore. L'essence est là. Il veut guérir. Donc c'est bon. D'accord? Allez, on s'arrête là.